Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
Et donc, mardi dernier, une sorte de coup de tonnerre a résonné dans le monde du football, puisque le président de la FIFA, faut-il la rappeler, Sepp Blatter, annonçait sa démission en conférence de presse, une démission 4 jours seulement après sa réélection à la présidence de la FIFA, vendredi dernier. Et Sepp Blatter, donc, avait été réélu malgré l'enquête américaine sur un immense scandale de corruption au sein de la FIFA. Depuis l'arrestation mercredi dernier à Zurich de 7 représentants de la FIFA, l'enquête continue. Et puis hier, c'est Interpol qui a émis 6 mandats d'arrêt, dont 2 visant d'anciens responsables de la FIFA, tandis qu'on apprenait hier en fin de journée qu'un nouveau ex-cadre américain de la FIFA se mettait à table, l'américain Charles Blazer, ancien membre du comité exécutif de la FIFA, qui coopère lui à l'enquête en cours de la justice américaine depuis un moment, a admis avoir touché des pots de vin en liaison avec les Coupes du Monde de 98 en France et de 2010 en Afrique du Sud, aveu passé devant un juge américain qui remonte à novembre 2013. Ainsi, les Américains continuent de remonter le fil de ce qui devient sans doute, deviendra un des plus gros scandales de corruption qui s'est au sein du football et puis qui entraîne aussi bien sûr de très nombreuses considérations géopolitiques, parce que au fond, avec la démission de Sepp Blatter, doit-on aussi croire éventuellement à la fin d'un système, alors que les 2 prochaines Coupes du Monde auront lieu en Russie, ai-je dit, en 2018, et au Qatar en 2022. Faut-il voir dans ce scandale de la FIFA une véritable affaire géopolitique? Et puis à quoi aussi aujourd'hui ressemble la diplomatie du foot et comment peut-on la réguler? Pour en parler ce matin avec nous, nous n'avons que des hommes de l'art, très spécialistes. On est ravis en plus que vous ayez pu nous rejoindre ce matin au matin. On a un très bon souvenir de vous. Vincent Deluc, bonjour.
Bonjour.
Journaliste sportif à l'Équipe, spécialiste du football, faut-il le préciser, mais aussi un peu de musique. Souvenons-nous du 5e Beatles en mai 2014 chez Stock sur le footballeur nord-irlandais George Best, c'est ça. Hein. Et puis aussi, petite et grande histoire de la Coupe du Monde, chez Robert Laffont en 2014. Il faudra peut-être le mettre à jour. Qui sait, les petites et grandes histoires de la Coupe du Monde. Je vous dis ça en passant comme ça. Bonjour Renaud Lecadre.
Bonjour.
Journaliste à Libération, spécialiste des affaires économiques et financières, co-auteur de Qatar, les nouveaux maîtres du jeu chez Demopolis en 2013, a signalé que la une de Libération et les pages d'ouverture sont consacrées justement à la question du Qatar aujourd'hui. Et puis, un revenant, si j'ose dire, parlez-lui de football et il revient tout de suite. Hein. Xavier Delaporte, bonjour.
Bonjour.
Dont on vous a longtemps écouté le matin chez nous sur France Culture, aujourd'hui rédacteur chef de Rue 89 et chroniqueur le jeudi soir chez Laurent Goumard. La première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous êtes surpris que ça n'explose, si j'ose dire, que maintenant, ou est-ce que c'est logique et normal que ces affaires de corruption, dont tout le monde dit tout de même que c'est un secret de polichinelle, arrivent là grâce notamment à la justice d'un pays qui n'en a rien à faire du foot, les États-Unis? Vincent Deluc.
Mais en fait, au départ, si ce pays n'avait rien à faire du foot, il n'aura pas manifesté son dépit de cette manière-là. C'est-à-dire que c'est quand même parce que la candidature américaine a été rejetée et également la candidature anglaise que du coup le système médiatique anglais et le système judiciaire américain
se sont
mis à ce point dans la bataille. C'est-à-dire que quand Coca-Cola fait tout pour que Atlanta ou Salt Lake City aient les jeux, la justice américaine est un petit peu moins
regardante,
un peu moins inquisitrice. Donc là, tout est parti de là. Et c'est vrai qu'à partir du moment où la justice de la vraie vie entre un peu en course, le rapport de force entre la rumeur et la vérité change un peu.
Tout part d'une vexation.
Renaud Lecadre. Il y a à la fois les Britanniques et les Américains sont frustrés d'avoir été privés des mondiales 2018 et 2022. Par ailleurs, la justice américaine pratique aussi une forme de diplomatie parallèle. Ils ne sont pas fâchés d'avoir des bonnes impressions sur le Qatar, soupçonnés par ailleurs de financer le terrorisme, ou de bonnes impressions sur la Russie, dans le cadre de la crise ukrainienne.
Alors, toutes ces questions-là, liées à la Russie et au Qatar et cette géopolitique-là, nous y reviendrons plus dans quelques instants, et notamment avec Brice Couturier. Xavier Delaporte, surpris ou pas surpris par tout de même ce fameux coup de tonnerre de réélection de Blatter, puis 4 jours après, démission, sans doute sous pression du FBI?
Pas tellement surpris que c'est effectivement eu lieu si tard. Pour le cas américain, il y a aussi une autre raison, c'est que quand vous regardez les sponsors, les top sponsors de la FIFA, donc les entreprises qui mettent depuis très longtemps de l'argent dans le monde du foot. Plusieurs sont américaines, hein, McDonald's, Coca, enfin donc et puis ils ont organisé eux-mêmes une Coupe du Monde. Enfin, je dirais, ils sont effectivement médiatiquement et sans doute culturellement moins impliqués dans le sport, quoique il y a aussi une pratique amateur très très forte aux États-Unis. Hein. Le sport est hyper répandu dans les universités, enfin le foot est hyper répandu dans les universités, les collèges, etc. Donc c'est pas complètement, ils sont pas complètement en dehors du jeu. Surpris, oui. Enfin, je me souviens avoir eu une discussion il y a longtemps avec un journaliste que connaît bien Vincent Duluc, qui est Pierre Ballester, qui avait beaucoup travaillé sur Armstrong. C'est un cas intéressant, Armstrong, parce que c'est aussi la justice américaine, hein, qui fait tomber Armstrong
sur
la question du dopage dans le cyclisme. Et on avait discuté comme ça un peu à bâton rompu, et j'avais demandé mais pourquoi vous enquêtez pas sur la FIFA, et il m'avait dit, alors c'était une réponse un peu de forfanterie, mais il m'avait dit ah ben parce que j'ai pas envie que ma voiture soit plastiquée. Bon, c'était un peu exagéré évidemment, mais
c'est rassurant.
C'était non mais c'est que ce fonctionnement là était connu depuis longtemps, etc. Mais je pense, enfin c'est souvent comme ça pour les grandes organisations, c'est que il y a un moment où il y a une fragilité, quoi, et sans doute que c'était un moment de fragilité pour les raisons qui ont été exposées là. Voilà, qui fait que ça peut tomber à ce moment-là et pas à d'autres, mais effectivement ça tombe très tard par rapport à tout ce qu'on savait.
Pour poser un peu le cadre et essayer de comprendre au fond pourquoi cette chose-là, quand même, ces événements-là sont si importants et risquent d'avoir des retombées, on l'a dit, pas seulement sur la question du foot, mais de retombées géopolitiques. Vincent Deluc, imaginez que vous parliez à quelqu'un qui ne sache pas du tout ce qu'est la FIFA et qui est Sepp Blatter. Vous dites, non mais vous diriez quoi? Après tout, il est pour l'instant présumé innocent. Quoi ça a servi? On a parlé de la FIFA comme étant un pourvoyeur, notamment d'aide par rapport aux pays du tiers-monde, de reconnaissance du football africain. On a parlé on dit que c'est une sorte d'ONU. En plus, hein, il y a plus de pays qui adhèrent à la FIFA que de pays à l'ONU. Vincent Deluc.
On est plus près de la multinationale opaque que de l'ONU, que de l'organisation des Nations Unies. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un système.
Oui, mais une multinationale qui organise des coupes
vrai,
du monde.
C'est vrai, mais on est un peu à la limite du parrain 3. C'est-à-dire que tout cet argent est légal et vaguement légitime. Après, effectivement, la FIFA, c'est la fédération la plus puissante du monde.
Ça existe depuis quand?
Mais ça existe depuis le début du siècle. Au départ, les premiers présidents étaient français, notamment Jules Rimet, l'inventeur de la Coupe du Monde en 1930. D'ailleurs, les Français ont souvent été présidents. Et depuis 41 ans, c'est aux mains de deux hommes. D'abord le Brésilien João Havelange, puis de Sepp Blatter.
Depuis 1998. Hein.
Sepp Blatter était secrétaire général de João Havelange depuis 81. C'est-à-dire qu'il était Mazarin avant de devenir roi lui-même. En gros, il est au pouvoir depuis 34 ans. Donc c'est une fédération, deux fédérations. C'est pas une démocratie. C'est une association à but non lucratif. C'est une ironie fantastique. Et donc qui gère des milliards, qui a fait plus d'un milliard.
Répétez-moi ça, que je l'entende bien le matin. Hein.
C'est une association à but non lucratif. Absolument. Ah, voilà. C'est assez fantastique. Et donc cette fédération gère le football mondial et l'argent du football mondial, grâce majoritairement aux recettes des Coupes du Monde, qui sont phénoménales grâce aux droits télé. Et ça forme comme ça un système assez particulier qui est pas du tout démocratique, mais qui repose purement sur le clientélisme. Et effectivement, la FIFA donne beaucoup d'argent à toutes les fédérations. Et après, l'argent arrive ou n'arrive pas au but auquel il était assigné.
Alors, continuons d'être pédagogique. Cet argent, il vient d'où? C'est les sponsors, les mécènes, c'est quoi?
Oui, il vient des droits télé de la Coupe du Monde et des sponsors globalement. Voilà. Mais c'est quelque chose d'absolument énorme. Le bénéfice de la FIFA annuel. Voilà. Je crois que cette année, c'était 1,5 milliard.
Autre question, Vincent Deluc. Faisons comme après tout Eric Woerth, qui a été blanchi dans le cadre du procès Bettencourt, qui récemment dans la presse, avant-hier, je crois, ou hier, disait n'accusons pas de tous les maux encore Sepp Blatter, qui bénéficie de la présomption d'innocence. Qu'a fait Sepp Blatter depuis 34 ans pour être resté aussi longtemps donc à la tête de la FIFA, enfin, tantôt comme secrétaire général, tantôt comme président? Qu'a-t-il fait pour être à ce point inamovible? On le sait, les bruits, les vengeances de couloirs, les complots.
Il y a 209 fédérations à la FIFA. Il a fait en sorte d'être toujours ami avec 130, puisqu'il avait toujours besoin de 60% des voix à chaque élection. Donc voilà. Et pour être ami, on peut être ami de manière sincère, on peut être ami de manière organisée, calculée. Et puis, s'il faut donner un petit peu d'argent à la fédération, On donne un peu d'argent à la fédération, mais tout ça est légal. Après, c'est l'utilisation de cet argent ou éventuellement le circuit de cet argent qui peut poser problème. Mais je ne suis pas certain au jour d'aujourd'hui que Sepp Blatter ait fait quelque chose d'illégal. J'en sais rien du tout.
Alors lui-même dit, oh bah après tout, je peux pas tout contrôler.
Oui, il se retranche derrière
ça. Puisque c'est une fédération de fédérations, avez-vous dit.
Voilà, exactement. Il dit, ce sont les personnages à la tête des fédérations ou des confédérations, puisque la FIFA est divisée en 5 grandes confédérations comme 5 grands continents. C'est ces personnages-là qui feraient une mauvaise utilisation, une utilisation délictueuse de l'argent. Et lui, n'y serait pour rien, évidemment.
Alors, pour l'instant, on parle beaucoup des gens, des membres de la FIFA et de son président, donc démissionnaire Sepp Blatter. On ne parle pas encore trop, enfin, ça commence à venir, mais de la question et du rôle, notamment de l'influence des sponsors dans l'histoire. Parce que s'il y a bien corruption avec de l'argent, cet argent, ne venant pas d'une association qui n'en aurait pas, puisqu'elle est à but non lucratif, vient nécessairement d'une pression des sponsors. Renaud Lecadre.
Bah, les sponsors sont un peu le cul entre deux chaises. D'une part, ce sont une des principales sources de financement de la FIFA, quasiment un tiers de ses recettes. D'autre part, ils sont aussi soucieux de leur image. Il suffit qu'on parle un peu trop de corruption pour qu'ils disent « halte là, nous, on n'est pas d'accord ». Tant que c'est resté sous le tapis que la FIFA a réglé ses petites affaires en interne en évitant que ça ne ressorte trop, les sponsors étaient plus des œufs qu'on les voit aujourd'hui.
Xavier Delaporte.
Mais non, mais c'est vraiment intéressant cette question de la FIFA parce que c'est très difficile à se figurer en fait ce que c'est comme type de pouvoir, d'organisation, etc. Parce que c'est effectivement Vincent Duluc dit bon alors voilà, ça ressemble à une sorte de multinationale, mais c'est pas non plus une multinationale parce que ça a pas de compte à rendre. En fait, on sait pas très bien à qui ça rend des comptes. C'est-à-dire que ça rend pas des comptes à des actionnaires comme une multinationale et ça a beaucoup moins de salariés. Bon, ça rend pas compte non plus à des citoyens qui votent comme un État. Bon. C'est une sorte d'organisateur de spectacle, voilà, ultra puissant, voilà. C'est une sorte de tourneur ultra puissant. Et en fait, la seule manière de considérer que ça rend des comptes, ou les seuls comptes que ça rend, c'est la qualité du spectacle que ça produit. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu comme dans un spectacle, c'est-à-dire que quand vous allez voir, les Stones, mais ça peut être un autre groupe, etc. Peu importe comment les conditions de production de spectacle, peu importe le fait que le tourneur ait dû mettre, un bol de coke dans les loges. Ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe sur scène, quoi. Et en fait, la FIFA, et ça, quand même, on peut pas lui enlever, c'est a réussi à perpétuer cette espèce de spectacle absolument incroyable qu'est la Coupe du Monde. Et ça, il l'a bien géré, Blatter. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte de faire progressivement
On parle de lui comme d'un showman. D'ailleurs, dans cette manière de dire « je ne démissionnerai pas, je me fais réélire », puis dans sa manière aussi de dire qu'il a démissionné, et en disant « puisque je n'ai rien à me reprocher, je vais continuer de bien travailler, d'ailleurs très sereinement, a-t-il dit, jusqu'à la nomination de mon remplaçant, parce que j'ai de très beaux dossiers à défendre. » Incroyable,
Le problème, c'est qu'on ne croit pas un seul instant à ses bonnes intentions. On peut croire à sa volonté d'une sortie qui soit un petit peu qui soit un peu glorieuse parce qu'il l'aurait lui-même choisi. On peut croire à cette volonté de laisser une trace différente de celle qui se dessine ces jours-ci. Mais dans la mesure où il veut rester à la présidence jusqu'à la prochaine élection, c'est forcément pour continuer à tirer les ficelles. C'est forcément pour faire un petit peu de ménage avant de rendre les clés. Et je pense que la machine laborieuse, elle va fonctionner à Zurich quand même.
Renaud Lecadre.
Oui. Vincent parlait tout à l'heure de clientélisme. Quand on voit le fonctionnement interne de la FIFA, c'est en apparence démocratique, un membre, une voix. Sauf que la plupart des membres, ce sont des pays croupions dont la valeur footballistique est proche de zéro. Le seul objet, c'est de recevoir quelques milliers du festin. Ils vendent leur voix lors des congrès de la FIFA. C'est pour ça que la frontière entre clientélisme et corruption est parfois assez ténue.
Vincent Duluc.
Mais oui, parce que le clientélisme, c'est la corruption légale, en fait. C'est-à-dire, par exemple, moi je suis représentant des îles Vierges, j'ai une voix comme l'Allemagne, une voix comme la Grande-Bretagne. Et je vais dire, il me faut absolument que vous me construisez un stade de 5000 places et 10 terrains, et il me faut 10 millions de dollars chaque année pendant 4 ans, et je vote pour vous, et il les aura. Après, la question, effectivement, c'est est-ce que les 10 millions de dollars arrivent à terme? On sait très bien, par exemple, que tous les pays africains sont derrière Blatter et vont beaucoup regretter son départ.
Oui, parce qu'ils ont, et c'est lui qui a instauré le système de un pays, une voix, un pays africain, une voix, c'est ça.
Mais enfin, c'était pas que pour l'Afrique. En fait, l'Afrique est reconnaissante d'abord de l'aide
financière. Parce qu'elle a bénéficié de ça, voilà.
De l'aide financière et aussi de l'augmentation de sa représentation en Coupe du Monde. Parce que la répartition des places en Coupe du Monde par continent est un enjeu aussi politique et géopolitique considérable.
Ouais, c'est fait, on est passé, je crois, de 2 à 5 pays voilà. Africains représentés dans la Coupe du Monde. Mais en ça, non mais, enfin moi, je voudrais insister sur ce truc, c'est-à-dire que il a réussi quelque chose. Sa réussite, c'est d'avoir fait en sorte de perpétuer ce spectacle et de le rendre toujours aussi agréable, émouvant, etc. Et c'est ça qui justifie l'argent qui est dans le foot. Je veux dire, pourquoi les sponsors sont contents? Pourquoi Coca-Cola renouvelle depuis, je crois, 76 son top sponsoring à la FIFA de 4 ans, enfin je sais pas exactement. Et le mandat, mais pourquoi? Mais parce que ça leur rapporte de l'argent. Pourquoi ça leur rapporte de l'argent? Parce que des gens regardent le foot à la télé. Pourquoi des gens regardent le foot à la télé? Parce que le spectacle se renouvelle. C'est-à-dire, c'est aussi bête que ça. La dernière Coupe du Monde, voilà, vous pouvez dire, vous dites, ah, c'est pas une bonne Coupe, etc. Et puis vous arrivez en demi-finale, vous voyez ce Brésil-Allemagne complètement dingue. C'est-à-dire que de mémoire d'amateurs de foot, et ben, ça justifie cyniquement ce fric.
Donc, est-ce que ça veut dire que ça justifie, allez, soyons amoral le temps d'un instant dans les matins de France Culture? Est-ce que ça justifie donc effectivement des pays fassent des pieds et des mains et qui sait fassent des chèques pour obtenir effectivement l'agrément et l'aval d'organiser une Coupe du Monde dans leur pays comme l'ont tenté de le faire le Maroc qui ne l'a pas eu et d'autres encore ou qui sait peut-être le Qatar, Vincent Duluc.
Mais c'est un peu la limite.
Est-ce que c'est ça le truc?
Mais il y a forcément une limite morale, mais c'est vrai que c'est un peu le cynisme et la corruption ou les soupçons de corruption au profit de la beauté. Parce qu'effectivement, je reconnais qu'une Coupe du Monde, on a... Enfin, qu'on aime le foot, ou même qu'on a une certaine idée du monde, et de, on va dire, même des grands mots, de la fraternité, du vivre ensemble, tout ce qu'on veut. Il se passe quelque chose pendant une Coupe du Monde, pendant un mois et demi dans un pays. Il y a quelque chose d'un lien.
On s'en souvient ici en 98,
voilà, qui est vraiment exemple. Important. Mais c'est vrai que voilà, que dans la cuisine, c'est un petit peu moins joli.
Que peut-on penser tout de même, alors, de cette démission de Sepp Blatter, vis-à-vis quand même de la justice américaine, Renaud Lecadre? Parce que
c'est quand même la première fois qu'enfin
il se murmure derrière que quand même la justice aurait dit écoutez, ou vous partez de vous-même et on chargera moins la barque que si vous ne partez pas du tout. Qu'est-ce que vous pensez de la véracité de ça?
On connaît bien la tactique de la justice américaine. Genre, je sors mes dossiers, venez témoigner à charge contre vos petits gueules. En gros, il y a une liste, il y a une course à l'échalote. Le premier qui va dénoncer
les uns après les autres.
Voilà. On a d'abord eu l'ami Chuck Blazer. Là, ils ont fait carrément un appel à candidature. Oui. Venez. Absolument. Venez nous donner des vies sur cette blatère. Précipitez-vous pour avoir une immunité.
Ouais. Et
justement, cette nuit, il semble que Jack Warner, qui était le président de la CONCACAF, de l'Amérique centrale, et annoncé qu'il allait se mettre à table et qu'il allait faire tomber tout le monde. Donc effectivement, on rentre exactement dans cette théorie de domino qui vient d'être évoquée.
Et donc là, du coup, la figure de Sepp Blatter serait de plus en plus touchée, vraisemblablement.
Même si on savait tous que Jack Warner était quelqu'un de peu recommandable, on imagine mal qu'effectivement, tous ces précédentes confédérations, qui étaient les responsables juste en dessous de Blatter, aient eu recours à des pratiques que lui, Blatter, n'aurait pas du tout avouées.
Les prochaines Coupes du Monde... La Russie et le Qatar. Ah, il fait trop chaud au Qatar. On écoutera un son tout à l'heure assez intéressant sur cette question. Qui sait s'il ferait pas assez froid ou assez tiède en Russie? Vous pensez que ça peut remettre en cause, peut-être pas la Russie, mais la question de la Coupe du Monde au Qatar, ce qui risque d'arriver dans l'actualité concernant la FIFA, Vincent Duluc?
Le prochain président va forcément être sous pression, va être obligé de faire revoter. C'est pas parce qu'on va revoter pour le Qatar que le Qatar sera pas élu. Mais je pense que le prochain président sera obligé de faire revoter, oui.
Mais entre-temps, les conditions de vote ont changé. Jusqu'à présent, c'était le comité exécutif, fort de 29 membres qui votait. Maintenant, c'est
l'Assemblée générale. Il faudra en acheter plus maintenant.
Ouais, il faudra acheter
il va falloir faire plus marcher encore dessous de table.
Gazprom est entré dans les top sponsors aussi, ce qui est pas rien. Hein, Gazprom donne beaucoup d'argent aujourd'hui au sommet de la FIFA.
Et on connaît bien sûr les photos d'accolades entre Sepp Blatter et Vladimir Poutine, le Qatar et la Russie. Il en sera question dans votre chronique, Brice Couturier, à 8h15.
Oui, c'est précisément là-dessus, vous avez raison, je vous l'avais dit hier, que je voulais intervenir. Parce que je voudrais parler de l'aspect géostratégique du football aujourd'hui, qui est devenu un instrument de puissance, un outil de soft power. On sait maintenant que l'attribution de la Coupe du Monde à l'Afrique du Sud a été payée rubis sur l'ongle. Alors comment vont réagir maintenant la Russie et le Qatar, ces heureux attributaires de la Coupe du Monde de 2018 et de 2022, au grand déballage en cours organisé, vous l'avez dit Marc, par la justice américaine.
Voilà, merci à vous Brice Couturier. On vous retrouve à 8h15 avec nos invités Vincent Duluc, Renaud Lecadre, Xavier Delaporte.